France Inter.
Je pense que le fait de peindre, ça oblige à regarder ça. On danse avec la nature. Le peintre, il danse, mais il danse pas seul. Il faut qu'il ait en face de lui quelque chose. Donc on apprend à danser au rythme de la nature. Donc on essaie de la comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche, et on n'y arrive pas.
On est sur des produits authentiques de vignerons avec une forte personnalité. C'est un patrimoine aussi, je pense, en France, qui pour moi a plein de belles valeurs et des variétés, des cépages qui peuvent être autochtones et propres à une région. Et c'est ça qui crée le charme et c'est ça qui crée le vin aussi derrière.
Cet homme a eu plusieurs vies. Dans les années 70, il veut devenir guide de haute montagne, mais deux accidents, dont l'un très grave, le font changer de trajectoire. Vers 20 ans, Jean-Marc Rochette commence une carrière de dessinateur pour des journaux comme Actuel ou L'Écho des Savanes, lance des séries à succès, Edmond le Cochon avec Martin Véron ou Transpersonnage avec Jacques Loeb, puis Benjamin Legrand, série qui devient une BD à succès chez Casterman, le Transpersonnage dont s'empare avec succès le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho. De Rochette, on lit aussi Le Loup, Vertige, La Dernière Reine, mais ne le limitons pas à la bande dessinée puisqu'il est aussi peintre, sculpteur, écrivain, amoureux de la montagne, de la roche, du vivant. Avec sa femme Christine, il vit isolé dans le massif des Écrins. Il possède une galerie et une maison d'édition. Bonjour Jean-Marc Rochette.
Bonjour.
Heureux de passer une heure avec vous. J'égrène quelques faits marquants de votre vie, mais vous, profondément, vous vous sentez quoi ? Dessinateur, peintre, marcheur, montagnard ? Qu'est-ce qui vous définit avec le plus de justesse ?
Plus de justesse, je pense qu'au final c'est quand même montagnard, bizarrement, puisque c'est là où je vis et c'est là où je passe la plupart de mon temps et c'est la montagne qui inspire un peu tout le reste. Donc après j'essaye de rendre la montagne ou par la peinture ou par l'écriture ou par la bande dessinée, mais mon sujet est quand même assez toujours à peu près le même, quoi.
Assez obsessionnel.
Je sais pas, je pense qu'il y a une forme d'obsession chez moi, d'esthétique, de la montagne, de la grandeur, d'espèce de souffle qui est assez unique.
Votre invité, à mon avis, est un obsessionnel aussi. C'est un vigneron, un jeune prodige du vin nature, m'avez-vous dit. C'est Thomas Finot, bonjour.
Bonjour.
On trouve le domaine Finot dans une des vallées de l'Isère, le Grésy-Vaudan. Vous nous direz, Jean-Marc, pourquoi Thomas est avec nous. Et puis je vous proposerai aussi dans le grand atelier un éclairage sur la nouvelle édition du festival Hors Limite. Ça vient de commencer en Seine-Saint-Denis, c'est un festival de littérature appétissant, dans plein de villes, dans plein de lieux du 93. 17h06, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter. Le grand atelier.
Bon allez, on marche.
On va par où là alors ?
Là on est parti des courses, un petit hameau au-dessus de Villard d'Arène et puis on va aller vers l'Aigle du Pontet pour avoir une vue globale du versant nord de la Meije où on a tous les glaciers.
Allons-y. Et là on prend un petit sentier bien raide, il y a plein de fleurs.
Ça c'est les marmottes.
Il y a des randonneurs qui ont dû s'approcher un peu trop près du terrier. Elle prévient les copines pour rentrer.
Au début, moi, je pensais que c'était un oiseau, un truc. Ça pourrait ressembler à un faucon ou un pêle.
En fait, elle crie.
Ouais. Là, on voit les touristes qui prennent la photo. Alors que c'est marrant, comme ils sont tout côte à côte, ils prennent tous les trois la même photo.
S'ils prennent la photo légèrement en direction du sud-est, en fait, ils peuvent avoir la même photo qu'un des fonds d'écran Microsoft de Windows.
C'est vrai ?
Windows a choisi une photo qui regarde les agneaux avec le lac du Pontet.
Mais je la vois, cette photo, là. Bah ouais, très bien, le fond d'écran automatique.
Elle est prise de là-bas.
Notre reporter de France Inter, Guy Banquetil, qui l'an dernier avait suivi les guides de haute montagne dans le massif des Écrins, on le sentait assez émerveillé. Oh, une marmotte. Est-ce que vous êtes toujours émerveillé ? Est-ce que cet adjectif vous convient encore, Jean-Marc Rochette ?
J'essaie de cultiver l'émerveillement à la vie, en fait. Je crois qu'une des choses qui est terrible, c'est d'être blasé de vivre, blasé de la nature, blasé de tout, quoi. Je crois qu'un artiste, enfin, c'est justement d'essayer de réenchanter sa vision. Donc, l'émerveillement, oui, c'est la base de mon travail, finalement.
Parfois, dans vos dessins et vos peintures, on voit un homme tout petit devant la montagne, Il m'arrive de me dire Rochette a la même humilité que Sempé. Il nous dessine tout petit face à ce qui existe en face de nous. C'est important de se rappeler que, non pas qu'on est peu de choses, mais qu'on est petit face à ce que vous voyez le matin, ces montagnes qui existent depuis tant d'années.
On est petit physiquement et on est aussi extrêmement court au niveau du temps. C'est-à-dire que c'est une chose que, quand on vit au milieu du massif des Écrins, on sent cette présence du temps est gigantesque, en fait. On a des choses qui n'ont pas bougé depuis des millions d'années, ou presque. Et donc, on se fait peu d'illusions sur notre impact. Bon, ça peut déprimer ou ça peut donner de la force.
Que voyez-vous quand vous regardez par la fenêtre de chez vous? Je rappelle que vous avez une maison à 1600 mètres d'altitude, que vous êtes dans une vallée qui n'est pas simple, parce que vous y vivez aussi depuis quelques années l'hiver avec votre femme, et il peut se produire des avalanches, il peut se produire des chutes de pierres, quelquefois la route qui était 6 km plus bas, je crois, du hameau, elle est totalement défoncée, donc inaccessible, et vous êtes seul avec les bêtes.
Oui, ben, ce que je vois par ma fenêtre, c'est le Dôme de Neige des Écrins, qui est le seul 4000 mètres du massif, et c'est le 4000 mètres le plus au sud d'Europe. Et ça a été pendant 400 ans le sommet de la France, puisque avant que la Savoie devienne française. Bon, c'est ce que je vois, c'est un lieu qui me lâche. Et autour de chez moi, effectivement, il y a, en plein hiver, il y a surtout des animaux. Alors évidemment, beaucoup de chamois, quelques loups, des renards, enfin un peu toute la faune, quoi. Et l'hiver, c'est un moment où on recharge nos batteries, je dirais, parce que il y a un sentiment d'être très loin.
C'est propice à la création, ça?
C'est propice à la création, oui. C'est-à-dire que d'abord, on n'a pas d'interférences, ou très peu d'interférences. Christine travaille sur ses livres, moi je travaille sur mon écriture, et plus particulièrement sur la sculpture en hiver.
Oui, vous sculptez des animaux, souvent?
Ben, principalement des animaux. Je suis un grand admirateur de toute la statuaire animalière, Pompon, tous les grands Barry. Enfin, j'adore la Rembrandt, Bugatti. Enfin, on peut en citer plein. Ils sont un peu, malheureusement, et c'est un sujet qui est pas retenu, mais je trouve qu'il est essentiel.
Vous sculptez aussi des femmes?
Oui, je sculpte des femmes, enfin une femme en particulier.
Qu'on retrouve aussi sur vos toiles, parfois.
Oui, absolument. Hein? Oui. Non, le corps humain aussi, c'est une forme d'animalité quand même, indéniablement.
Il ne vous a pas fait poser, Thomas Finot?
Non, pas jusqu'à présent.
Parce que tout intéresse, tout vivant intéresse Jean-Marc Rochette. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de vos fenêtres? J'imagine que votre maison ne donne pas sur vos vignes.
Non, elle ne donne pas sur mes vignes, mais elle donne sur une belle chaîne de montagne qui est Belledonne aussi, et avec ses sommets, avec le Grand Pic, pour ça. Et c'est vrai que la montagne change et attire l'œil à chaque fois. Quand je taille, même l'hiver, je prends un moment, je lève la tête et je vois ce massif-là avec ses changements de couleurs aussi. C'est chouette, c'est intéressant, et voilà, des fois sur les œuvres de Jean-Marc, je retrouve ce toucher de couleurs, de choses qui est présent aussi au quotidien avec moi.
Et ben on va continuer de parler avec vous, d'entendre votre contemplation, mais pas seulement, peut-être aussi de boire du vin. Je vois deux bouteilles là devant nous, quelle chance on a, Jean-Marc Rochette, du Finot en studio. On va continuer la conversation donc avec la Britannique Flora Hibbard, qui de sa belle voix grave chante comme
to tell you how deep the night is, but life is a mystery, no key to crack the mystery. When I woke up, you were gone. I lay my head back down, the ghost ranch glowing in my inner eye. What do I do about my destiny now? With about headed beauty, only I receive it how? Clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the line. Stretched out beneath the dome and dreaming, soul dissolves in geometric blue. Goodbye, goodbye to everyone that's leaving. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now?
now. Faced with the bowed-headed beauty, only I receive it. How clearly the lost transmission went burning from your radio to mine. I keep one ear on the stretched out beneath the dome and dreaming. Now I'm stretched out beneath the dome and dreaming. Now I am stretched out beneath the dome and dreaming. I understand it, but I cannot explain. What do I do about my destiny now?
Floroy Bird de chanter Code sur Inter.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Jean-Marc Rochette, vous êtes revenu sur les lieux, j'allais dire les lieux du crime, les lieux de l'enfance dans la vallée du Vénéon où vous veniez marcher enfant. Je crois que votre mère vous emmenait vous balader là-bas.
C'est ça, ma mère était une passionnée de marche, de randonnée, et donc elle m'a un peu fait découvrir tout ce massif. Elle m'a mis le virus, en fait, parce que je me souviens très bien des premières fois, et comme je vous disais, ce côté obsessionnel vient de cette espèce de choc esthétique que j'ai eu quand j'avais 12-13 ans, je pense.
Et que vous avez certainement passé votre vie à vouloir retrouver.
Exactement, c'est ne pas perdre l'émerveillement de la première vision de la haute montagne, quoi. Et donc, la peinture, pour ça, c'est très bien. Ça oblige à essayer de comprendre de l'intérieur comment ça fonctionne.
Vous êtes parti vivre à Paris, vous avez vécu à Berlin. Pourquoi Berlin, d'ailleurs ?
À Berlin, parce que j'arrivais plus à travailler en France. Je devais être dans une période un peu dépressive, je sais pas, mais en tout cas où j'avais plus l'émerveillement, justement. Et puis je suis parti à Berlin parce que Berlin, je pense pour moi, c'est la ville de la peinture, où il y avait des grands peintres allemands, Baselitz et tout ça. Je pensais que c'était un endroit où je pourrais me ressourcer.
Et d'ailleurs, vous avez un peu laissé de côté la BD là-bas et commencé vraiment à travailler sur des toiles et des grandes toiles.
C'est exactement, c'est à Berlin où j'ai passé 10 ans de ma vie et où j'ai pratiquement, je n'ai fait que peindre en fait, pratiquement. Jusqu'à ce que la bande dessinée me rattrape grâce au succès de Bonjour et du film. Donc mon éditeur s'est rappelé de moi et à ce moment-là je suis revenu à la bande dessinée.
Le transpersonnage,
exactement. Aye. Puis après les livres que vous avez mentionnés.
2017, vous arrivez aux étages, c'est le nom du hameau où vous vivez. Vous dites la maison des étages, par exemple ?
Exactement, j'ai la maison des étages et je voulais avoir une maison là-bas. Il s'avère que c'était un hôtel qui était abandonné, assez grand, donc ça me permettait d'avoir un endroit, de faire un atelier. Le lieu me plaisait parce qu'en France, il y a peu d'endroits aussi sauvages. Et donc tout était là, et donc avec Christine on s'est installé, et puis on a passé quatre hivers là-haut, donc on a tiré le livre Au cœur de l'hiver.
Oui, très beau livre, qui est votre premier roman.
Oui, en fait, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas en faire une bande dessinée, mais que c'était possible d'en faire un roman. Donc cette expérience de solitude, la maison des étages, exactement. Oui.
Il faut lire Au cœur de l'hiver, c'est paru aux Étages Éditions, c'est d'ailleurs votre maison d'édition avec Christine.
Voilà, exactement, plutôt la tienne d'ailleurs.
Et vous commencez en disant, ben voilà, 2020, c'est le Covid, est-ce qu'on reste à Paris ou on va ailleurs? Et vous vous sauvez en voiture tous les deux.
Oui.
Vous avez une seule peur, c'est tomber sur la police.
Exactement.
La police qui vous arrête.
Absolument.
Et qui vous dit continuez, monsieur Rochette.
Oui, c'est bien, continuez.
Et là, votre vie change parce que vous découvrez l'expérience de la montagne l'hiver.
Voilà. Il y a une très grosse différence entre des alpinistes et des montagnards. Les montagnards, c'est quelqu'un qui appréhende la montagne, l'agriculture, le froid, les avalanches, la solitude, la maison qu'il faut préserver, etc., etc. Alors que l'alpiniste, c'est souvent un citadin qui fait du sport en montagne.
Oui. Voilà, c'est tout à fait différent. Vous n'aimez pas tellement ce mot, alpiniste, vous dites grimpeur.
Oui, c'est marrant, c'est curieux. Mais c'est mon époque, on disait grimpeur. Mais surtout maintenant, c'est montagnard qui me plaît le plus. En fait, ce rapport à tout ce qui est en montagne, quoi. Comme on pourrait dire paysan, en fait.
Thomas Vineau, vous êtes montagnard ou paysan ?
Avant tout paysan, mais j'adore la montagne. J'aime bien ces moments-là aussi, passer dans la montagne. qui est attirante aussi pour moi.
Vous connaissez la maison de notre invité, Jean-Marc Rochette ?
Non, je connais pas les étages, quoi, mais bon, je vois très bien à peu près où ça se situe, et voilà, quoi, non loin du hameau de la Bérarde, quoi, pour ça.
Vous venez de la Drôme, vous ?
Tout à fait, du côté des Crozes-Hermitage, dans la Drôme, natif des Crozes, et j'avais envie de m'installer en tant qu'agriculteur, paysan, quoi. J'aime bien ce terme paysan parce que c'est ce à quoi je me raccroche aujourd'hui, où on vit suivant les saisons, le travail de la terre, de la météo, et ça c'est important. La montagne, c'est pareil, on la vit aussi en suivant les saisons et la météo.
Et vous la contemplez aussi, vous ?
Oui, j'aime
bien.
Vous
avez le temps.
Ouais, bah, comme je disais, hein, voilà, quand on finit quelques tâches dans les vignes ou autres, on la contemple, on regarde un peu hein, les yeux en face ou derrière sur le massif de la Chartreuse. Il y a des jolis rondeaux, il y a des belles balades.
Hein. Il y a 18 ans, Thomas Fineau, vous découvrez, dans la région du Grésivaudan, son potentiel viticole. Alors, je pense qu'on vous regarde comme un fou à l'époque.
C'était le mot, oui, je pense.
Qu'est-ce qui vous décide à installer le domaine Fineau là-bas ?
Qu'est-ce qui me décide ? L'envie de bien faire. Moi, je travaillais en Suisse à l'époque, dans le milieu viticole aussi, et j'avais aussi pas mal d'amis qui étaient sur Grenoble, qui terminaient leurs études. Je tombe sur ce vignoble complètement isolé, on partit à l'abandon, et je me dis, tiens, il y a un réel potentiel, il y a un joli coin, on est sur les contreforts de la Chartreuse, il y a une belle identité, et en fait, au fur et à mesure que j'ouvrais des pages de cette partie historique ou les terroirs, je me suis rendu compte que c'était un très grand vignoble. Il y avait plus de 10 000 hectares planté dans le Grésivaudan, c'était le plus grand vignoble alpin, il y avait plein de choses à faire ressortir.
Mais un vignoble qui a une histoire.
Oui, qui a une réelle et une vraie histoire, quoi, du coup, avec des cépages aussi qui sont propres aussi à ce vignoble-là. Mais c'est vrai que les gens me prenaient pour un fou, aussi bien élus comme autres agriculteurs ou paysans, en disant, mais la vigne s'est perdue au fil des années, mais qu'est-ce que tu viens te réinstaller sur ce secteur-là ? Il a fallu une dizaine d'années hein, avant que je me fasse reconnaître aussi un petit peu par mes confrères, quoi, sur le secteur. Quoi,
parce paysans. Que ça marche, déjà, ça marche pas tout de suite.
Non. Il y a des années qui sont compliquées, de labeur, il faut du temps pour mettre les choses en place, pour faire revivre un sol, pour travailler le vin aussi, il faut un certain nombre d'élevages. Nous, notre cuisine, on la fait qu'une fois dans l'année, et on n'a pas le droit de se tromper aussi. Et j'apprends encore chaque jour, quoi, chaque année, sur ces cépages-là, sur le terroir.
Il paraît que le vin rouge Crozes-Hermitage Cuvée 2019 est très bien, que le vin blanc Berdès 2020 est très bien. La preuve, ils sont dégustés régulièrement par des internautes qui viennent vous voir.
Ça donne une texture en bouche à ce vin qui est vraiment très joli, à la fois structuré mais à la fois quelque chose de très souple et beaucoup de fraîcheur. Un nez plutôt sur les plantes aromatiques et une bouche vraiment sur un côté bien gourmand, bien croquant et une finale sur les épices, plutôt sur la réglisse.
Ça me fait penser à un côté bergeron, un peu, ce côté un peu abricot, lactique, paille.
Il y a un côté épicé qui me sent bien là. Et à la fois ce côté lacté, mais je rejoins lacté, c'est le côté très beurre.
C'est à la fois rustique un peu, je trouve, et assez classe.
Une fin de nez nommée piquante.
C'est un côté dorlotant. Moi, je suis à la maison, tu vois.
Ah, c'est enveloppant.
Ouais, c'est enveloppant.
Je suis d'accord,
Une fin de méditation quand tu bois sur le canapé après une longue semaine.
Le Berdès serait-il un vin de méditation, Monsieur Fineau ?
Oui, après, c'est au moment où on le boit, on le déguste, où on l'apprécie. Après, le vin, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et chacun a sa propre vision aussi, après, derrière, au moment de la dégustation. Mais oui, le vin apporte à méditer, à mon sens, et à avoir une ouverture d'esprit aussi, par moment. Mais oui, c'est intéressant d'entendre cette discussion.
C'était très spontané, vous avez
dégustation.
Vu.
Tout à fait.
Méditer, est-ce que vous méditez face aux montagnes ? Certainement Jean-Marc Rochette, mais quand vous buvez parfois certaines cuvées de Thomas Fineau.
Méditer, non, pas jusque-là. Non.
Il s'agit du vin blanc, d'ailleurs.
Il y a un côté festif chez moi dans la dégustation. Oui. Mais je reconnais que, avec Thomas, pour moi, ça a été vraiment une révélation.
Comment vous le rencontrez ?
Je le rencontre parce qu'on avait un problème, enfin c'est un peu compliqué, mais j'avais des gens qui me faisaient des cadres de tableaux, des grands cadres, et on avait un problème de lieu. Et Thomas nous a prêté une espèce de petit atelier, et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça. Après, j'étais surtout très surpris, parce que moi je suis grenoblois depuis très longtemps, mais ma famille aussi, et j'étais très surpris de savoir qu'il y avait des vins autour de Grenoble, parce que c'était pas connu pour être un endroit où il y avait du vin. Et donc j'étais vaguement sceptique, et puis je l'ai bu, et puis j'ai trouvé que c'était des vins qui me plaisaient, parce que ils sont pas trop puissants, justement. C'est des vins qui n'ont pas le côté du sud. Ils ont une finesse qui est tout à fait nette, enfin, qui vient du terroir, je pense. Et en fait, je me suis dit, mais effectivement... Et après, j'ai appris que c'était effectivement un endroit où il y avait beaucoup, beaucoup de vin avant. Dans 1850, c'était le troisième lieu en France, etc.
Le troisième département viticole
voilà.
français, oui.
Et puis, moi, je travaille un peu en ce moment sur un texte qui se passe au Moyen-Âge à Grenoble. Et au Moyen-Âge, tous les coteaux étaient pleins de vignes autour, quoi. Donc, ils réinventent un peu quelque chose qui existe depuis très longtemps, quoi.
En biodynamie, c'est important de le préciser.
Oui, pour moi, la bio et la biodynamie sont importants dans mon travail tous les jours. Je passe du temps dans mes champs, dans mes parcelles, dans mes vignes, et j'aime travailler dans un environnement qui est sain. Et après, bah voilà, il y a aussi le plaisir, pour moi, gustatif, où je trouve qu'il y a plus de profondeur sur ces vins-là qui sont apportés et élevés en biodynamie.
Il y a des cuvées tracteurs et des cuvées plus élaborées. C'est quoi une cuvée tracteur?
C'est un visuel, les cuvées tracteurs. Les gens sont appropriés ce nom-là, en fait, sur ces cuvées-là. Et c'est plus mes petits vins de soif, les légers, qu'au début, j'ai commencé un petit peu à faire du rachat parce qu'il y avait encore quelques papilles, quelques anciens qui cultivaient encore quelques parcelles aussi sur le Grésivaudan, sur les contreforts de la Chartreuse. Et j'ai racheté un petit peu de raisin comme ça. Et ça s'est mis en place sur des petites cuvées de tracteurs qui peuvent être assez légères. Il y a un pétillant naturel aussi. C'est une gamme qui est assez facile d'approche.
Qu'est-ce que vous préférez dans le domaine finot? Vous achetez quoi surtout? On va lui faire un peu de pub à Thomas Finot.
Moi, j'aime son blanc et son rouge et les tracteurs ou les autres. Là, je ne sais pas comment tu appelles ça.
Les traires de la Duye, la Verdesse.
Mais il y a des vins qui sont festifs, de soif. Hein, et j'aime ça aussi. C'est des vins d'abord qui font pas mal à la tête, ce qui est quand même une qualité première pour du vin. Et
vous pouvez travailler ensuite?
Enfin, non, je ne bois pas quand je travaille, mais par exemple, sur une soirée comme le vernissage, le lendemain, tout le monde était bien. Donc, je pense qu'il ne met pas trop de...
Non, on vinifie de manière naturelle, avec le moins d'intrants possible.
Et donc, c'est un vrai plaisir. Et puis, il a aussi un pétillant, je ne sais pas comment tu appelles ça.
Ouais, bah, c'est le pétnat, hein, pour son terme un peu qui plus vulgaire, un pétillant naturel.
Un pétillant naturel qui est aussi, j'ai vu, les gens le boivent facilement.
Le froid, le gel ne sont pas des ennemis? Comment vous faites?
La météo, le climat est le plus difficile pour tout paysan à essayer d'entreprendre ou de gérer, mais on peut pas vraiment. Donc il faut savoir beaucoup relativiser aussi sur soi. Et c'est aussi pour ça que je me suis permis en fait de mettre en place ces petites cuvées tracteurs qui me permettaient de racheter un petit peu de raisin aussi pour ça, pour aussi subvenir en fait à nos besoins pour ça. Mais après, c'est un ennemi avec ces conditions climatiques. On a les saisons, on a moins en moins de saisons quoi, intermédiaires, et on a des variantes de température et climat qui peuvent être très importants sur une même période, quoi, sur un laps de temps très court.
Donc vous êtes angoissé jour et nuit?
Non. On a quand même notre partie hivernale où on peut dormir tranquillement sur nos deux oreilles. Une fois que la vendange est rentrée et que tout est à l'abri, on a quand même jusqu'à fin mars, jusqu'à mi-avril où c'est quand même plus calme. Et mi-avril, on commence à se dire, tiens, qu'est-ce que la météo nous réserve? Ouais. Est-ce qu'on a les premières gelées ou pas?
Jean-Marc Rochette, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de votre enfance sans tomber dans l'interview purement psychologique. Mais j'ai l'impression que c'était pas le temps de la joie, l'enfance, à l'école.
Bah déjà, ça a mal commencé, puisque mon père est mort pendant la guerre d'Algérie. Donc déjà, tu commences un peu dans le dur.
Vous aviez quel âge?
Ah, j'avais 1 an. Il est mort en 57, tout au début de la guerre, quoi.
Donc élevé par maman.
Et élevé par maman. Donc déjà, il y a une espèce d'ambiance un peu lourde. Et puis voilà, donc ça, c'est déjà... Si au départ, il y a ça, évidemment, on a une vision un peu... une vision un peu faussée. Je veux dire, on commence par la mort, donc...
Est-ce qu'il y avait de la mélancolie dans la famille, du coup?
Ah, bah, plus que de la mélancolie. C'est
une immense tristesse.
Une immense tristesse. Je veux dire, une femme qui se marie avec un homme qu'elle aime, et un an après, elle a un bébé, il est plus là. En état, mon père était médecin, et donc elle se retrouve avec rien. Parce que l'état, c'est toujours pareil, il t'envoie à la guerre, mais une fois que tu rentres dans un cercueil, pendant 15 jours, il y a du monde, et après, tu te retrouves tout seul, toute seule, en fait.
Qu'est-ce qu'elle a fait, alors?
Elle a repris ses études, elle est devenue infirmière, et puis après, elle est devenue assistante sociale, et elle m'a élevé le mieux possible. Donc, pour répondre à votre question... J'avais une vision assez... En plus, j'ai fait de l'alpinisme, qui n'est pas le sport le plus simple.
Ça, vous commencez tôt aussi, hein?
Je commence à 15-16 ans, et c'était dans les années 70, l'alpinisme, on était quand même très, très banzai. C'est-à-dire, c'est tombé comme un gravelotte, comme on dit. Et surtout sur Grenoble, les gens grimpaient, avalanches et tout ça. Donc tout ça a fait que j'ai eu une vision où, justement, j'ai bien compris ma finitude.
Et petit à petit, le jour s'est levé quand même. Le fait de vivre en montagne, le fait de pouvoir en parler, de pouvoir écrire des choses comme Au cœur de l'hiver, ou finalement de faire de l'art, de chercher la beauté, c'est ce départ un peu dramatique a tourné vers une, finalement une joie de créer. Quoi. Et j'en suis là maintenant, à 70 ans bientôt. Donc,
Et vous devez finalement cette joie contemporaine, cette joie d'aujourd'hui, aux chutes. Puisque lors d'une des deux chutes extrêmement graves, il y a une vision qui apparaît,
quelque chose
d'une expérience mystique. C'est quasiment Claudel qui est à la fois à Notre-Dame de Paris.
Claudel, mais surtout.
Et vous, c'est l'art qui vous tombe dessus.
Je pense que quand on a un accident comme celui-là, en fait, c'est une chute en couloir, on se raccroche à peu près n'importe quoi, je pense. On essaye de dealer, alors pas avec Dieu, mais avec soi-même. On se dit, c'est pas moi, c'est pas maintenant, pas à 17 ans, et pourquoi pas. Et donc, c'était parce que je dois dessiner, ce qui était un peu une aberration, parce qu'à l'époque, je dessinais pas si bien que ça. Mais ça a été un peu un serment d'alcoolique, en fait. C'est, si je m'en sors, je boirai plus. Et moi, c'était si je m'en sors, je dessinerai. Donc, je me suis mis à dessiner, sérieusement.
C'est fou, parce que vous allez assez vite vers les magazines et on vous prend. Et vous avez assez vite du succès aussi.
Oui, c'était un choc, en fait. C'était un choc. Et de fait, j'étais un dessinateur relativement médiocre, c'est pas le terme. Mais disons, surtout, je faisais pas ça d'une manière très, très sérieuse. Et après, effectivement, en quelques années, j'ai été publié un peu de partout. Et ma carrière a débuté comme ça, quoi.
Donc on apprend seul.
Moi, j'ai appris seul. Enfin, j'ai surtout essayé de rencontrer des professionnels. Mandrika, Francis Mas. Donc j'ai appris au contact, un peu comme comme les artisans à l'époque. C'était Et finalement, cette carrière a surtout décollé avec le transpersonnage.
Le transpersonnage. Voilà. Combien de tomes?
Oh, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais disons qu'il y en a un qui est le plus connu, le premier avec Jacques Loeb, et puis pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est le Terminus que j'ai fait avec Bocquet. Je trouve que c'est une très belle histoire, très dur pour le coup, mais je trouve que c'est une très belle histoire.
On rappelle que c'est un train qui roule dans un monde post-apocalyptique.
Absolument, où il n'y a que de la glace, et dedans, il y a les classes sociales qui se sont reformées de manière la plus violente.
Ouais, les plus pauvres sont en queue de train.
Voilà, en queue de train, et c'est pour ça d'ailleurs que cette histoire est assez universelle et qu'elle marche à peu près dans tous les pays, parce qu'une histoire très simple et qui fonctionne auprès de tout le monde.
Ouais, ils essaient de remonter le train.
Surtout, ils vont savoir ce qui se passe là-haut, quoi, comme une chenille.
On va écouter un extrait du film sud-coréen qui a tellement bien marché.
Dans ce train, nous tenons lieu de demeure. Une seule chose se dresse entre la chaleur de nos cœurs et les morsures du froid. Des vêtements? Des boucliers? Aucunement. L'ordre. L'ordre est la barrière qui nous préserve du gel fatal. Le devoir de chacun dans ce train de la vie est de remplir le rôle qui lui est échu. Nous sommes tous tenus d'occuper la place qui nous était prédestinée. Au départ, l'ordre a été établi par des billets. Première, seconde et resquilleur dans votre genre. L'ordre éternel est maintenu par la machine sacrée. Donc, et ce depuis l'origine, j'ai ma place à l'avant. Vous avez la vôtre à l'arrière. Restez à votre place.
Vous avez dû être touché, Jean-Marc Rochette, du succès de ce film.
Ah oui, j'étais touché surtout par l'espèce de raz-de-marée qu'il y a eu en Corée, puisqu'il a fait 7 ou 8 millions d'entrées. Donc quand j'y suis allé, moi j'habitais à Berlin, on m'avait un peu oublié, je dois dire. Et quand je suis arrivé en Corée, j'étais une espèce de star là. Donc
ça fait du bien.
Ça fait du bien, oui.
Mais surtout que vous disiez de votre BD qui est très importante en France et à l'étranger aussi, puisqu'elle a très très bien marché. Vous disiez, bon, ce que j'ai fait c'est un peu du cinéma raté. Vous étiez critique.
Je suis toujours... Oui, je pense que la bande dessinée est un art très difficile dans la mesure où c'est un art qui se situe à la croisée de plein de chemins. La littérature, le dessin, et puis le cinéma. Le mouvement est statique, l'écriture, on ne peut pas trop la développer, donc c'est un art extrêmement dur.
Ça crée des frustrés.
Ça crée des frustrations, je pense, effectivement, beaucoup dans le... Par contre, on peut arriver à trouver un chemin, mais il est compliqué. Moi, je pense que j'ai fini par le trouver avec La Dernière Reine, les dernières œuvres que j'ai faites. Il faut toujours, pour moi, avoir une base de fable pour que les gens
fonctionne dans des histoires un peu simples.
Il était une fois un loup, il était une fois un berger.
Il était une fois La Belle et la Bête, il était des choses comme ça.
Ouais. Thomas Finot, vous êtes lecteur de Jean-Marc Rochette.
Oui, tout à fait.
Vous ne faites pas que lui prêter un lieu.
Non, j'étais d'abord lecteur avant de lui prêter un bout de la cave, quoi, du coup, et c'était...
Vous avez commencé par le transpersonnage ?
Tout à fait, oui. Ouais.
Et c'est vrai que le dessin, le trait est très dynamique, je trouve. Il est expressif, même si vous ne cherchez pas le réalisme à tout prix, Jean-Marc Rochette.
Oui, alors c'est un long cheminement, parce que j'ai commencé quand même il y a très longtemps. Donc au départ, j'avais un dessin plus réaliste, plus froid. Et puis petit à petit, je me suis libéré pour arriver à avoir une chose plus dynamique, plus expressionniste, on pourrait dire, jusqu'au dernier. Et où j'ai eu la chance, c'est que le public m'a suivi, les lecteurs m'ont suivi sur un dessin qui n'est pas si simple d'approche.
Non, vous êtes allé vers une sorte de dépouillement. Voilà. Total, mais en gardant un dynamisme.
Voilà, et mes lecteurs ont finalement adhèrent, parce qu'ils sont embarqués dans les histoires, c'est la base.
Quelquefois, vous aimez rejoindre des musiciens, notamment les musiciens de l'ensemble Thélème. Vous dessinez pendant qu'ils jouent.
Ah oui, oui.
Ça c'est beau, parce que Thélème, ce sont des musiciens très dynamiques eux aussi, qui aiment faire entendre des œuvres d'autrefois, mais en les adaptant avec des comédiens, des chorégraphes, en essayant de leur donner un aspect contemporain. Ouais. Et ça, vous pouvez dessiner avec eux.
Ça a été une grande expérience pour moi. D'abord parce que j'aime beaucoup la musique de la Renaissance, Thélème, j'aime beaucoup, Jeannequin,
Clément Jeannequin,
voilà, tout à fait. Et donc c'est eux qui sont venus me voir pour cette expérience-là, et on a fait deux représentations à Grenoble, et j'en garde un souvenir vraiment très ému, d'abord parce que j'étais emporté par cette musique, et puis j'étais très libre derrière en contrepoint avec mon dessin, c'est des dessins qui frisaient l'abstraction.
Qu'est-ce que vous dessiniez en écoutant par exemple Josquin des Prés ou Clément Jeannequin ?
Je suis parti surtout sur un livre que j'avais fait de l'Odyssée d'Homère, et j'avais fait beaucoup de dessins qui frisaient l'abstraction, donc ça me permettait de travailler avec des couleurs très vives, avec quelque chose de très musical en fait, pas très bande dessinée, plutôt très picturale, et on sent le public adhérer ou pas, dans ce cas-là il adhérait. Et j'étais vraiment porté par leur musique. Par contre, ils sont vraiment, il y a un côté magique dans ce vocal.
L'ensemble Thélème avec le compositeur Josquin des Prés, Fama Malum pour quatre voix d'hommes et lutte. Avec nous dans le grand atelier, l'auteur des BD Le Transpersonnage, Le Loup, Vertige, La Dernière Reine et le peintre également, il est peintre et sculpteur, Jean-Marc Rochette, accompagné d'un vigneron qui propose du vin de la vallée du Grésivaudan. C'est Thomas Finot qui vend son vin en France mais aussi à l'étranger. Vous vendez aussi à des chefs étoilés ce vin.
Oui, tout à fait. C'est un plaisir. Et voilà. Au début, c'est ce qui m'a fait vivre aussi un petit peu la reconnaissance, qu'on n'a pas de moyens, qu'on parle de pas grand-chose en poche. c'est la reconnaissance à travers ces gens du métier qui nous font vivre aussi derrière. Et c'était important. C'est vrai qu'on a un chef, le chef Harry Baird, qui est sur Beldon aussi, qui a exercé, qui m'a tout de suite pris aussi sous son aile et qui m'a fait rencontrer certaines personnes avec son sommelier Jean-Jacques.
Je vous propose d'écouter un extrait d'un très bon film sur le vin, Tu seras mon fils, de Gilles Legrand, avec Nils Arestrup, qui joue le propriétaire d'un vignoble prestigieux à Saint-Émilion et qui ne supporte pas que son fils Martin, qui travaille avec lui, puisse un jour lui succéder. Il rêve d'un fils plus talentueux, plus charismatique.
Sarah ?
Oh, Paul.
T'as vu, ça frise la dépression depuis que ton père est malade. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? La plante est stressée. C'est la fin du cycle. Faudra la bichonner. Une bonne silice après vendange et puis bien la laisser dormir. Mais là, pour l'instant, je dégagerai bien les fruits au couchant et puis...
Voilà. T'as entendu, il faut aérer le côté ouest.
C'est quoi ce travail, là ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Le tri, ça commence à la vigne. Pas de feuilles, pas de raisins verts. Et évidemment, surtout, pas de pourri.
C'est le béaba du coupeur, ça. Vous pouvez y aller.
Ça se passe comme ça chez vous ? Thomas Finot ?
Oui, on apporte quand même beaucoup de soins à la matière première, donc au raisin, pour que la vigne soit aussi épanouie. Pour ça, on apporte pour qu'elle soit dans des bonnes conditions de produire, éviter les stress. Alors des fois, on peut avoir des stress hydriques aussi un petit peu en été. Mais voilà, avant tout, c'est la matière première qui va faire le vin. Si on a un beau raisin, on arrivera à faire un bon vin. Pour ça.
Vous êtes un peu moins sévère que Nils Arestrup ?
Non, moi je...
Il y a des coups de gueule ?
Je peux avoir mes tensions, des coups de gueule aussi. Je suis quelqu'un aussi du terroir, de la terre, et ça va avec suivant les saisons. Et après, c'est à mes vendangeurs, c'est simple. Je leur dis, donc tout est vendangé bien sûr à la main pour respecter au maximum la plante. Mais je leur dis, ce que vous aimez pas manger ou ce que vous voyez qui est pas beau sur la grappe, eh ben vous faites le tri. Il faudra peut-être pas le mettre dedans, quoi, du coup, pour ça dans le panier.
Non, Jean-Marc Rochette, vous écoutez très attentivement Thomas Finot. À quoi vous pensez ?
Ah bah je viens d'une famille de vignerons, hein, donc je connais un peu tout ça, quoi.
Ouais.
Et donc j'adore les gens qui partent de la terre et qui arrivent à faire des produits qui amènent au plaisir. C'est un peu le travail du peintre, c'est le travail du poète, c'est le travail de... Et puis j'aime ça parce que je vois bien le risque qui est pris, l'investissement en personnel, en lieu, etc. Nous, on a un investissement qui est beaucoup plus petit. En tant qu'artiste, on est seul. Là, il y a du monde et tout ça. Donc ça, je vois bien, je suis admiratif.
Oui, vous êtes chef d'entreprise.
Chef d'entreprise.
Oui, on peut dire ça. On a plusieurs casquettes, quoi. Mais
avec le risque de l'échec chaque année.
Tout à fait, chaque année.
Ça n'est jamais gagné.
Est remis en cause. Et après, on a toujours la partie où c'est Dame Nature qui va quand même diriger la météo. Mais c'est un facteur, c'est un ensemble. Et il faut savoir rebondir, prendre des bons choix, les bonnes décisions au bon moment.
Jean-Marc Rochette, le risque de l'échec, il a toujours été là aussi dans votre vie. Parce que quand vous commenciez, adolescent, à gravir une montagne, il y avait non seulement le risque de tomber, mais le risque de mourir aussi. Et ça faisait partie de vous. Vous le saviez.
Oui. Ça, l'alpinisme, c'est le alors ça, s'il y a quelque chose où il y a du risque, c'est l'alpinisme. Il n'y a pas d'autre, activité humaine plus dangereuse que l'alpinisme de haut niveau. D'ailleurs, je pense que, voilà. Mais je pense que l'art aussi. L'art, en fait, s'il est fait avec intensité, évidemment, on est un peu seul à croire en soi et il est difficile d'être admis par les autres. C'est aussi une vision du monde qui ne peut ne pas être partagée.
Donc, vous avez souvent exprimé le fait que vous auriez aimé être peintre reconnu plus tôt. Mais qu'à l'époque, dans les années 70-80, c'était très difficile de rentrer dans ce métier.
Oui, alors la peinture, c'est un sujet qui m'est, disons, très très personnel. J'ai préféré faire de la bande dessinée, qui est un art plus populaire. La peinture, c'est une chose qui est restée pour moi, en fait, hein, une expérience très personnelle, en fait. Et donc, dernièrement, on a montré donc, les œuvres dans un livre, mais c'est nouveau pour moi de sortir de la grotte, en fait.
Oui, vous pensez auquel de livre ?
Je pense aux Bêtes Blanches, en fait.
Qui fait partie de votre maison d'édition.
Absolument.
Hein, où on voit certaines de vos œuvres avec les mots d'un poète qui s'appelle Robert Alexis.
Robert Alexis, voilà. Je pense que ça a été... Là, d'un coup, ma peinture a pris une véritable expression grâce au poème de ce poète lyonnais.
On a l'impression que vous faites des gros plans sur vos toiles.
Il y a des gros plans, j'aime la matière en fait, les rochers, le ciel.
Elle est très dense, il y a de la matière.
Très dense, ouais, et puis magmatique. Et la poésie de Robert est beaucoup plus mercurienne, beaucoup plus légère. Donc les deux font un livre dont on est très fier en fait.
Bouillon terrible des angoisses aux heures de nuit, fenêtres ouvertes, même sans respirer. Son au-delà paisible, après qu'on a des voix anéanties, réussit le comptage et va, liberté du chaos, près d'une oreille muette et douce. Qu'est-ce qu'on a là comme œuvre pour accompagner cette poésie, ce poème ?
C'est une angoisse en fait. C'est le mot angoisse ou ce qu'il utilise. En fait, c'est une espèce de
bouillon cri terrible des angoisses.
Des angoisses.
Ouais, c'est le cri de Mound que façon
ouais,
Rochette.
C'est ça un peu. C'est une façon d'être. Ces nuits où quelquefois on a des angoisses qui vous empêchent de dormir.
On cherche longtemps la couleur.
Le problème de la couleur, c'est que c'est un acte assez dangereux. Quand on fait du gris, c'est toujours de bon goût. Le noir, le blanc, le gris, tout ça est de bon goût. La couleur, il faut admettre que c'est un acte assez dangereux. Parce que la couleur peut être mièvre, comme elle peut être extrêmement puissante.
Bah, vos bleus sont très bleus.
Voilà, par exemple les bleus, sans parler des miens, mais quand on voit les bleus de Van Gogh, il y a une espèce de bleu qu'on ne voit pas dans la nature. Mmh. C'est des bleus indigo, des bleus qui ont marqué l'humanité en fait.
Van Gogh, Cézanne qui est aussi un de vos amis.
C'est mes deux grands copains, ça, ouais.
Vos yeux regardent leurs œuvres souvent depuis
ouais.
L'enfance.
Ah, je les ai toujours regardés, ouais, c'est ce qui m'a fait faire de la peinture, d'ailleurs, cette espèce de prise de conscience de la couleur.
En 2011, j'ai eu la chance d'aller dans un des ateliers de Soulage, dans son atelier du 5e arrondissement de Paris, pas à 7, mais à Paris. Mmh. Il avait déjà un grand atelier là, et il m'avait raconté le petit garçon qu'il était, et qui voulait absolument peindre du blanc, peindre la neige. Il avait 8 ans.
J'étais en train de tracer avec mon pinceau des lignes noires sur du papier blanc. Déjà, c'était surprenant pour les gens qui m'entouraient parce qu'on m'offrait des couleurs et je préférais tremper mon pinceau en encrier. Et on dit, mais pourquoi tu as toutes les couleurs? Pourquoi tu préfères? Parce que je préférais. Et alors un jour, j'étais en train de laisser traîner un pinceau bien imbibé d'encre sur du papier lorsqu'on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Alors, ils ont traduit un paysage de neige, c'est pas vrai. On lui a bien fait préciser. J'ai dit, de la neige, c'est autre chose. Un paysage, je ne sais pas ce que c'était qu'un paysage âge que j'avais. En réalité, je crois, tout simplement, mais c'est l'explication que je donne maintenant, que je devais essayer de rendre le papier plus blanc. Un papier, c'est gris. Le papier blanc, c'est grisâtre. Et si on met du noir à côté, brusquement, il s'illumine. Et c'est ce que, probablement, je devais essayer de faire. En tout cas, l'anecdote, c'est, qu'est-ce que tu fais là, mon petit Pierre? La réponse est, de la neige. Et ça a provoqué un tel éclat de rire que tout le monde s'est souvenu.
C'est une belle expérience.
Oui, c'est très joli. Et puis en plus, effectivement, c'est un peu cette recherche de la matière et pas du paysage. C'est-à-dire comme on peint le rocher et pas forcément le paysage. Ça, c'est une chose je suis tout à fait fasciné par la matière elle-même. Hein, que ça soit des nuages, que ça soit l'air, que ça soit l'eau, que ça soit un peu comme Soulage qui peint la neige et pas un paysage de neige, quoi.
Et après, il peint le noir, mais ce qui l'intéresse, c'est la réflexion de la lumière, le reflet de la lumière sur le noir, et les accidents que ça provoque.
Oui, oui, la peinture, je pense qu'effectivement, moi j'ai travaillé beaucoup sur les gris aussi, et on peut avoir une expérience pour le coup métaphysique en face de certains tableaux gris. C'est ce que je recherchais à une époque, cette espèce de plongée dans la matière comme ça... C'est difficile à expliquer avec les mots, c'est pour ça qu'on peint.
En étant muet.
Voilà. Mmh. C'est Matisse qui avait dit, si vous voulez peindre, il faudra d'abord apprendre à vous couper la langue.
On va écouter, je ne vais pas vous faire parler pendant 3 minutes, on va écouter Mélancolie, justement. C'est une nouvelle chanson de Mathieu Bogartz.
Bonjour, ça va? Comment chez toi? L'amour, tout ça, comment ça? Je ressens un poids. descends. Pas toi, moi la mélancolie, ma maladie, elle m'empêche d'aller. Elle m'empêche d'aller. Là où c'est.
Atelier sur France Inter.
Hors limite, c'est un beau titre pour un festival de littérature contemporaine. Bonjour Hélène Gaudy.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, autrice du livre Archipel. Vous aimez qu'on dise écrivaine et autrice d'ailleurs ?
Oui, tout à fait, j'aime.
Très bien, mais je garde.
Gardez.
Archipel au pluriel, aux éditions de l'Olivier, roman qui était en lice pour le Goncourt, et vous participez à ce fameux festival Hors limite qui se déroule en Seine-Saint-Denis. Comment il faut l'entendre, ce titre-là, Hors limite ?
Mais je crois qu'en limite, c'est vraiment un festival donc, qui est ancré sur un territoire, le territoire de la Seine-Saint-Denis, et qui est porté par les bibliothèques, puisque c'est l'asso Bibliothèque en Seine-Saint-Denis qui l'organise depuis de nombreuses années maintenant. Ce qui fait que finalement, c'est un festival qui vient là où les gens ont déjà l'habitude d'aller. Et donc, c'est les écrivains qui viennent dans ces endroits-là. Et ça, pour moi, c'est vraiment très précieux, parce que c'est la culture qui peut se partager dans des lieux où il n'est pas forcément intimidant pour les gens de se rendre.
Énormément de villes de Seine-Saint-Denis sont concernées.
Oui, je crois quasiment toutes.
Quasiment toutes. Ouais. Hein. Alors ces événements, c'est quoi ? C'est des rencontres avec les auteurs en tout premier ?
Oui, c'est majoritairement ça, mais parfois il y a des formes, des lectures musicales par exemple. À l'inauguration, il y a souvent Là, je crois que cette année, c'est Sylvain Prudhomme qui fait une lecture musicale avec Seb Martel, qui est guitariste.
Oui.
Tous les ans, moi c'est vrai que j'y vais souvent, puisque j'habite en Seine-Saint-Denis. À l'inauguration et à la clôture, qui sont souvent des moments assez festifs, avec des formes comme ça, qui mêlent les disciplines, qui mêlent la musique à la littérature, par exemple. Puis il y a aussi des formes un peu singulières. Moi, par exemple, ma rencontre, elle est animée par des étudiants du lycée Eugénie Coton, qui sont en DN Made. C'est une formation artistique qu'on peut faire après le bac dans ce lycée-là, qui est aussi une école, du coup.
Et ce sera à quel endroit, ça ?
Alors ça, c'est à Montreuil, à la bibliothèque
le 3 avril.
De Montreuil, tout à fait.
Ils vous poseront des questions ?
C'est ça, oui. Et donc, c'est eux qui préparent, je pense, sur un temps assez long avec leurs enseignants et leurs enseignantes, ces rencontres. Donc, c'est vraiment implanté dans la vie quotidienne aussi des gens en Seine-Saint-Denis. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce festival.
Mais vous faites aussi, par exemple, partie de l'équipe enseignante du Master de création littéraire de Paris 8,
oui.
L'université de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez le sentiment que le département devient un foyer de création, un foyer d'expérimentation littéraire au pluriel ?
Moi, j'ai découvert, en fait, ces manifestations-là avant d'habiter en Seine-Saint-Denis. Et je crois que ça fait partie des choses qui m'ont donné envie d'y vivre. J'ai participé à Hors Limite il y a plus de 10 ans. J'ai fait cette résidence qui s'appelle Écrivain en Seine-Saint-Denis, qui m'a permis d'aller sur les lieux de mémoire de Seine-Saint-Denis, donc pour l'écriture du livre que vous avez mentionné.
Ça s'appelle Une île.
Une île, une forteresse, tout à fait. Et c'est vraiment comme ça que j'ai découvert aussi ce territoire, quoi, par ces actions culturelles qui sont menées depuis longtemps et qui en font un département vraiment vivant sur le plan de la culture.
Est-ce que vous pensez qu'un festival comme Hors Limite peut créer, certes, des vocations de lecteurs, mais aussi d'écrivains ? Est-ce que c'est en s'approchant de choses qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire l'écriture ou l'écrivain, qu'on peut être attiré par ça ?
Bah, en tout cas, ça peut donner l'impression que c'est plus accessible qu'on ne pourrait le penser. C'est vrai, quand on rencontre des classes, où souvent les gens, les jeunes aussi, on peut avoir l'impression qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui est forcément vieux ou mort.
Oui.
Donc, ça permet quand même de voir que c'est pas le cas, de voir que c'est pas non plus des gens inaccessibles, qui sont dans un monde protégé de celui où vivent les gens normaux. Les écrivains sont des gens normaux qui vivent parfois souvent sur les mêmes territoires et qui sont confrontés aux mêmes problématiques. Et c'est ce qu'on essaye aussi de faire passer, c'est que justement la transformation du monde en écriture est quelque chose dont on peut se saisir si on en a l'envie, le désir. Bon, après, ça, je pense pas que ça naisse que d'une rencontre non plus avec un écrivain. C'est un désir qui est souvent profond et ancien quand on veut écrire. Mais en tout cas, ça peut autoriser.
Et bien, si vous habitez la Seine-Saint-Denis ou même Paris ou même ailleurs, venez au festival Hors Limite. Il y a plein de manifestations dans plein de villes. C'est du 21 mars au 5 avril. Je précise que tous les rendez-vous sont gratuits.
Tout à fait, c'est important.
C'est important. Oui. Et je remercie Hélène Gaudit d'avoir été une belle ambassadrice de ce festival. Et je rappelle le titre de votre dernier roman, Archipel, à l'Olivier.
Merci.
Jean-Marc Rochette, certes, vous peignez, certes, il vous arrive encore de faire de la BD, vous n'avez pas totalement abandonné le métier.
Non, on verra.
Quelquefois, vous dites, oui, j'arrête, comme Charles Aznavour, mais vous êtes toujours là, en auteur de BD.
J'espère avoir la même carrière, alors j'ai 95 ans. Alors.
Oui, je vous le souhaite. D'ailleurs, vous aimeriez mourir comment ?
Vieux. Très vieux et dans mon sommeil, à plus de 100 ans. Voilà.
Ah, moi, je pensais que vous alliez me dire attaqué par un loup.
Non.
Parce que il y a quand même ce quotidien qui est certes la contemplation, le fait d'apprécier ce que vous voyez et le vivant, mais il y a aussi parfois de l'extraordinaire comme des loups que vous pouvez croiser.
Ah oui, ça, là-haut, on est de plein pied dans la sauvagerie. J'ai raconté dans le livre Au cœur de l'hiver une attaque de loup. Enfin, surtout, on a vu les résultats. C'est vrai que c'était, il y avait une espèce de flaque de sang qui faisait 5-6 mètres de long. Il n'y avait plus rien. Ils avaient absolument mangé tout, jusqu'aux sabots. Et donc, c'est quand même assez violent là-haut. La nature, elle peut être.
Il y a des avalanches qui tombent sur votre maison.
Les avalanches, on a tout. Donc, il faut être bien avec le destin.
Et puis, il y a des petits renards qui viennent manger vos poules.
Ouais. Enfin, oui, c'est exactement ça, mais vous savez tout.
Mais oui, il y a même des tomates qui, au départ, parce que vous faites pousser, vous, des tomates, c'est pas du vin, c'est des tomates tout là-haut.
À 1600 mètres,
oui. Oui, dans une serre.
Dans une serre, exactement.
À côté de chez vous. Alors, elles sont un peu jaunes au départ, mais il faut mettre des pommes pour qu'elles deviennent rouges.
Exactement. Quand elles sont vertes, on les monte à la cave, au grenier, on met des pommes et les pommes font mûrir les tomates et au bout d'un mois, on peut manger des tomates pour Noël, par exemple.
Comme Thomas Finot, vous expérimentez aussi.
Ouais, exactement.
Merci Thomas Finot d'être venu présenter votre travail.
C'est
passionnant
moi.
Et passionné de paysan. Paysans vignerons, je reprends votre expression. Et puis Jean-Marc Rochette, il y a beaucoup de livres à citer. Ils seront tous sur la page du Grand Atelier. Je cite aussi chez Alary Éditions des entretiens passionnants avec Adrien Rivière. La chair du monde, vous avez passé 6 jours à parler de vous.
Ah oui, il m'a
et à répondre à ses questions.
Il m'a posé des questions et j'ai répondu. Voilà.
Et puis vous serez le 29 mars à 19h avec Robert Alexis à la Maison de la Poésie, avec qui vous avez signé Les Bêtes Blanches. Ce sera quoi ? Conférence, projection, lecture ?
Une projection avec sa poésie et puis après je pense qu'il lira de ses poèmes, j'en lirai aussi et on parlera un peu du rapport entre la poésie et la peinture, qui est quelque chose qui est vraiment très important pour moi.
Vous avez cité Au cœur de l'hiver à plusieurs reprises, il y a cette phrase « Il ne me suffit plus d'essayer de peindre le bleu du ciel, il est évident qu'il est temps de le vivre ». Diriez-vous, Jean-Marc Rochette, que vous avez enfin trouvé un équilibre, je dirais un équilibre vital, entre la vie, cultiver, manger pour vivre, marcher, contempler, et la plongée solitaire dans l'art ?
Oui, depuis que j'habite là-haut, aux étages, créer a pris un sens, c'est-à-dire il fallait que je rende compte de cette esthétique qui m'entoure, et une esthétique pour laquelle la photo, je la trouvais pas suffisante dans mon cas, puisqu'il y avait une relation à la matière. Et depuis que je suis là-haut, donc depuis 2016-2017, j'ai trouvé ma voie, en fait, jusqu'à écrire, puisque c'était une chose qui m'était assez interdite, l'écriture, puisque je suis dyslexique.
Ben oui, vous étiez un enfant dyslexique.
Et voilà, et puis maintenant, c'est un de mes plus grands plaisirs, je suis capable d'écrire pendant 6 heures d'affilée.
Bah, vous donnez envie de vieillir.
Exactement, c'est exactement ça.
Et on pourrait boire un petit verre.
On va faire ça.
C'est d'ailleurs certainement pas un petit verre. Qu'est-ce que vous nous proposez rapidement, Thomas Finot ?
On a un blanc qui est un cépage typique sur la Verdès, un point pour ça. C'est vraiment un vin avec du caractère qui est propre à lui et avec une fraîcheur alpine aussi, comme on peut l'aimer. Et après, on peut aussi aller sur un rouge, l'Étrère de la Duye, qui est aussi un cépage vraiment typique du Grésivaudan pour ça, avec toujours de la fraîcheur dans les vins.
Il y a toute l'équipe technique qui est en train de s'approcher de la vitre, là, regardez-les. Jean-Marc Rochette, Thomas Finot, c'était Le Grand Atelier. David Leprince a réalisé cette émission préparée avec Louis Tempero, Virginie Rouzic, Betty Algray, Valentine Chedebois a programmé la musique. Il y avait aujourd'hui à la technique Tiffany Battistel. Samedi à 17h sur Inter, la balade du musicien Babix, même horaire dimanche, le grand atelier de l'historienne Annette Viviorca qui viendra en compagnie de l'auteur et dramaturge Jean-Claude Grimbert. Je vous attends sur la page Facebook du Grand Atelier et sur Instagram et Blue Sky.